Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le mercredi 28 septembre 2022. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, autrement dit LCDE, saison 4, épisode 125. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien en direct de Bruxelles.
Bonjour à tous. Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez entre 2, 3, 4 événements e-commerce en mangeant des frites. Que vous soyez fan de Benoît Poulvord, d'Hergé, de Jean-Claude Van Damme, de Stromae ou de Virginie Efira, vous ne serez pas perdu dans cet épisode spécial.
Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre-douce, incisif mais jamais méchant.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre travail différemment dans vos oreilles, s'il vous plaît.
Le sommaire de cette émission... Allez, un autre. Au sommaire de cette émission, des news simples et funky depuis la capitale européenne, des interviews inédites, des intervenants, tous aussi surprenants les uns que les autres une fois.
Et on est chez nos amis belges et comme à chaque émission, on va terminer avec du fun et avec la rubrique panier surprise. Laetitia.
Adrien.
Prêt.
Synchronisation des montres. Alors Adrien, pourquoi est-ce qu'on est à Bruxelles ?
Bah pour manger des frites et du chocolat, du très bon chocolat. Non, qu'est-ce qu'on fait à Bruxelles ? Ouais, qu'est-ce qu'on fait à Bruxelles ? Bah écoute, on a été invité par le BG pour un événement, le Digital Benchmark 2022. Je connaissais pas, j'étais jamais venu à cette édition. T'étais déjà venu au Digital Benchmark ?
Non, jamais. Mais je sais que ça a eu lieu dans plein d'autres capitales européennes.
Ouais, donc c'est plutôt cool. Moi, j'ai toujours identifié le BG comme étant un des acteurs. Tu vois, à côté de la FEVAT qui fait, ça n'a rien à voir ce qu'ils font, mais on va dire comme des acteurs incontournables que je connais depuis plus de 10 ans qui sont dans le game de l'e-commerce. Donc, on était extrêmement flattés de pouvoir être invités, de couvrir cet événement et puis de rencontrer, donc de se rapprocher de l'EBG et puis de découvrir cet événement. Donc, cet événement, c'est un événement qui se déroule sur 2 jours, format assez classique finalement, des ateliers le matin, des one-to-one l'après-midi, de l'alcool le soir. Et c'est sur 2 jours, les annonceurs qui sont là, qui sponsorisent, pardon, non, les éditeurs qui sponsorisent et des annonceurs qui sont invités. C'est assez sélectif. Je dirais qu'il y a peut-être 200 personnes. Quand j'étais à la plénière, j'ai vu qu'il y avait à peu près 200 personnes, quelque chose comme ça.
Mais quel type de personnes il y a, Adrien ?
Bah écoute, ce qui est cool, c'est que tu as tout dans le nom. Ça s'appelle donc Digital Benchmark 2022. Ils auraient peut-être pu appeler ça Digital E-Commerce Benchmark, parce que du coup, c'est très e-commerce. C'est ce qui me plaît beaucoup. Il y a trois, on va dire, tracks. Donc trois, on dit pas trois pistes, mais on va dire. Trois, comment on dit ça, il y a trois scénarios.
Bon, trois tracks.
Ouais. Bon, trois tracks, on va s'engueuler encore quand on parle en anglais. La track avec des conférences autour de la data, des conférences autour de l'acquisition et des conférences autour de l'expérience en ligne. Et ensuite, tu as quelque chose qui s'appelle les ateliers. Je pense que c'est un peu fourre-tout quand tu ne sais pas trop où ça va, tu le mets ça dans les ateliers. Donc finalement, le matin, tu peux quand même assez choisir assez bien ce que tu as envie de faire et de sélectionner les conférences ou les ateliers dans lesquels tu veux assister. Et puis l'après-midi, tu es booké. Alors si tu es un annonceur, tu as tes rendez-vous et si tu es un sponsor, tu as ton stand et tu veux pouvoir rencontrer des annonceurs pendant... Bah c'est du speed dating, le classique. Oui. T'as quoi, 20 minutes, 30 minutes ?
20 minutes,
t'as, rentrer. T'as 20 minutes de one-to-one. Et c'est des formats que les éditeurs... Bah, relativement classiques, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format que les éditeurs aiment beaucoup parce que tu peux sélectionner les personnes que tu veux rencontrer. Il y a un système de matchmaking. Et puis ensuite, très rapidement, 20 minutes, si t'es pas trop mauvais, tu peux relativement qualifier, on va dire, s'il y a un besoin ou pas. Et ensuite, tout se joue.
Si tu as préparé tes rendez-vous à l'avance.
Faut les préparer, exactement. Il faut bien faire le suivi, etc. Donc bon. Et les vrais rendez-vous se font pas en réalité autour de la table, mais ils se font autour d'un verre.
Autour d'un verre, ouais.
On va en parler plus tard.
Autour d'une bière.
Exactement, les fameuses bières belges. Donc vous avez compris, bien sûr, que Laetitia et moi, on rigole. On est au troisième degré, même, je disais, sur toutes ces références belges. Laetitia, bah du coup, donc voilà pour le format.
Adrien, tu as assisté à des ateliers. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, un atelier ? Qu'est-ce qui monte sur scène et ouais. Ce que tu as retenu ?
Bah, ça va être long de tous les faire, mais peut-être ce qui illustre bien, c'est la plénière. La plénière qui a été assez dynamique, elle a duré peut-être un peu plus d'une heure avec des sessions relativement courtes. Donc, tu avais l'ouverture, bien entendu, par l'EBG qui expliquait un petit peu ce que c'est que l'EBG, ce que c'est que cet événement. On en avait ensuite une conférence autour de comment bien préparer le futur du search marketing. J'ai à chaque fois sélectionné une chose à retenir. Alors, c'était des sessions d'une vingtaine de minutes. S'il y avait une chose que j'ai bien aimé, que j'ai retenu de cette session, du futur du search marketing, c'est le SEO, SEA, SEM, SE, ce que tu veux, c'est l'omnicanalité du search, qui passe plus juste par le search, mais par la vidéo, la géolocalisation, les Q&A ou le vocal search, l'assistant pour la maison et Amazon. Donc, surtout quand tu vends des produits en réalité. Donc, tu te rends compte qu'il ne faut plus juste se focaliser sur les mots-clés et ta page, mais il y a plein d'autres choses qu'il faut travailler pour bien se positionner. Et d'ailleurs, en off, Laetitia, hier, on disait que c'était en off, je crois, TikTok. Qu'on disait que TikTok est le nouveau Google, c'est ça.
Exactement. C'est en train de mettre à la mode.
Donc, on n'en a pas parlé hier, mais voilà, c'est aussi également tout le social. Autre conférence, Data et Privacy, quel futur pour la personnalisation des parcours utilisateurs. Là, c'était tous les outils autour de la gestion des consentements. Tu sais, quand tu vas sur une page et tu as tout de suite, est-ce que tu acceptes ou pas de partager tes cookies, tu vas voir plus et tu as toutes ces informations. C'est les pop-up, enfin, c'est pas les pop-up, je crois que ça s'appelle les pop-in, mais qui apparaissent et que tu peux sélectionner comment tu vas gérer, partager tes informations. Tu avais ensuite une autre session, c'était la maturité digitale dans le B2B. Le nom n'a pas l'air sexy et pourtant, c'était une conférence qui était passionnante. Beaucoup de parallèles entre le B2C et le B2B, la complexité du B2B qui est infiniment plus complexe que le B2C dans les process de décision. C'est très dur à résumer, mais j'ai beaucoup aimé cette session. Et enfin, la fin des cookies tiers, la personnalisation laisse place à la personnification. Je l'ai bien dit, personnalisation laisse place à la personnification. Ça existe, personnification, Laetitia,
oui.
Comme mot,
ouais. Oui.
C'est personnifier quelque chose, c'est ça?
Exactement. Bon, c'est un terme littéraire.
Je sais pas si c'est un jeu de mots. Je crois que c'est plus un jeu de mots que la réalité, mais bon, peu importe. Et finalement, le truc que j'ai retenu, c'est, on va dire, il y a trois groupes, trois catégories dans les ad tech, mais on peut l'ouvrir à n'importe quoi. Dans tout ce qui est gestion des cookies tiers ou gestion des informations personnelles des consommateurs. Le premier, c'est les GAFAM tu restes dans leur écosystème, donc ils connaissent tout sur toi, donc ils peuvent cibler très précisément ce qu'ils veulent. Le deuxième, c'est les acteurs traditionnels, c'est la majorité du marché, elle repose sur les cookies tiers ou c'est les identifiants. Et le troisième, c'est les acteurs ID-less ou cookie-less, et le marché est en train d'aller dans cette direction. Google Chrome a un peu retardé, on va dire, ça, la mise en place de l'effacement ou la suppression des cookies, mais tout le monde va y aller, donc il y a énormément d'acteurs qu'on connaît, qu'on a reçu déjà au micro d'ailleurs, autour du cookie-less. Et puis ensuite, c'était des ateliers, enfin, il y avait d'autres ateliers, j'en ai assisté un, c'était par exemple la méthodologie appliquée à la définition d'une offre de service et de la refonte d'un site web, un titre long finalement qui explique pas mal de choses autour de l'éco-construction et du RSE qui était assez intéressante. Donc voilà un petit peu en gros pour les ateliers. Pour ces conférences, en discutant avec des gens et en voyant moi dans les salles, c'était entre 20-30 personnes et 60 personnes, donc pas mal quand même.
Ouais, pas mal, parce que c'est assez bien organisé en fait, tu peux rarement faire et des meetings en même temps et des ateliers, donc le temps est plutôt bien partagé, ce qu'on rencontre pas trop sur les autres salons.
Tous les autres, on se plaint tout le temps.
Ouais.
C'est soit des one-to-one, ça te fait un gruyère, et là ils ont fait. Exactement. Donc là, moi j'ai adoré parce que du coup, les sessions plénières sont pleines pour le coup. Enfin, les ateliers, parce que toute personne a d'autres choses à faire. T'as souvent ça c'est classique, mais t'as souvent des annonceurs, des marques, des retailers qui vont faire ces ateliers ou ces sessions. Pas toujours. Mais voilà, je te ferai une petite conclusion tout à l'heure là sur comment j'ai ressenti tout ça. Mais voilà un petit peu pour les ateliers. Et Laetitia, on va faire full circle là-dessus. Qui de mieux que le DGBG, BCBG de l'EBG pour nous en parler?
Et nous accueillons Benjamin Glessner, qui est le DG de l'EBG. Bienvenue, Benjamin.
Merci, bonjour.
Bonjour, Benjamin.
Comment ça va, Benjamin?
Ça va bien.
Ça va?
Un peu fatigué.
Parce que souffles un peu?
Oui. Enfin non, c'est pas tout à fait fini, donc on est à fond jusqu'au bout.
Super. Bon, Benjamin, tu es le DG de l'EBG. On va commencer dans l'ordre. Présente-nous l'EBG.
L'EBG est un club de partage d'expérience où on s'appuie prioritairement sur le contenu pour dérouler tout ce qu'on construit. Là, en l'occurrence, si on parle du benchmark, le benchmark naît avec le Yearbook, qui est une étude qui fait un peu plus de 500 pages. C'est un énorme travail qu'on fait à quatre mains avec une vingtaine de cabinets de conseil, les meilleurs du marché, chacun sur des segments, donc des écosystèmes technologiques. Et c'est à partir de là, à partir de ce squelette-là, qu'on construit l'ensemble de l'événement, à savoir les conférences de remise, les workshops, et évidemment le ciblage des personnes qui y participent, à savoir des CXO, qui sont porteurs de projets dans ces écosystèmes. Et l'idée, c'est véritablement d'analyser, de décrypter et d'aider à comparer ces écosystèmes qui sont en constante évolution.
Par rapport aux autres éditions que vous avez faites, c'est pas la première. Est-ce qu'il y a une particularité? Vous le faites toujours à Bruxelles? C'est toujours le même format? Ou il y a des évolutions que tu as pu voir?
Alors, sur le contenu, on est dans une tendance en fait, assez constante, à savoir qu'on capte les nouveaux sujets du marché et les sujets qui sont relativement matures, on ne les réaborde pas. En l'occurrence, on est à la 5e ou la 6e édition du Yearbook. Et on ne réécrit pas un chapitre qui est encore valable l'année précédente. Donc les yearbooks sont complémentaires les uns aux autres. Donc on est quasi à 2000 ou 2500 pages au fait de contenu complémentaire depuis la première édition. Ça, c'est vraiment un élément important. Le second élément, c'est qu'on a alors dans l'organisation en tant que telle, c'est qu'on a une préoccupation sur l'écologie de l'événement qui est de plus en plus forte. Le dernier événement qu'on a fait avec un déplacement en avion était à Berlin il y a 3 ans.
Avant Covid.
3 ans exactement. Avant le Covid, oui, bien avant le Covid. On était parti à un peu moins d'un millier à Berlin et c'est un non-sens, on avait rempli 2 avions, ça on ne fera plus. Déjà à l'époque, on disait que c'était absurde, mais on disait que les participants avaient besoin quelque part de s'évader réellement et que l'évasion était, enfin, s'accompagnait quelque part d'un voyage en avion. Donc ça, on arrête, on ne se déplace plus qu'en train, d'autant plus qu'on ne se déplace que pendant 2 jours. Donc voilà. Et ce fil rouge, au fait, qui est donc de penser à minima d'un point de vue empreinte carbone, je l'impose à toutes les équipes de bout en bout de la chaîne. Et le seul écart qu'on fasse, c'est l'impression de ce yearbook. Donc on imprime du papier, on coupe les arbres pour ça, mais c'est réellement le seul écart qu'on fait. Et pour le reste, je pense qu'on est réellement droit dans nos bottes. Il y a un dernier élément qui est essentiel, c'est que ce rendez-vous-là s'appuie sur le partage entre pairs. Donc ce qu'on demande à l'ensemble des participants, c'est d'étayer les centres d'intérêt qu'ils ont, donc implicitement les projets qu'ils auront à mener. Et ces critères dans la web app qu'on a sont lisibles par l'ensemble des participants de sorte à ce qu'ils puissent engager des conversations et se rencontrer tout au long du séjour, au fait. Et ça, c'est également un élément très important parce que le but n'est pas simplement de se faire rencontrer des prestataires et des annonceurs ou des utilisateurs, mais de faire en sorte que les utilisateurs, entre eux, réussissent à se créer un réseau. Et c'est ce qui va les porter également dans leur vie professionnelle, mais à court terme sur les projets qu'ils seront amenés à réaliser.
Benjamin, est-ce que tu peux nous dire combien est-ce qu'on est là à Bruxelles, au Business Center, combien il y a de partenaires, combien il y a d'ateliers ?
Bien sûr, on est un peu plus de 550 participants global. Il y a un rapport de 3 utilisateurs de technologie, donc que nous on appelle annonceurs, mais le terme est un peu galvaudé, pour un staff côté partenaire. C'est un équilibre qui nous est très cher, on est les seuls sur le marché, si on peut appeler ça un marché en fait, à faire ça. Et on le fait pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance, un esprit de partage qui prédomine l'aspect commercial. Donc on part du contenu, mais on est aussi dans un contexte où le partage est inhérent et primordial dans tout ce qu'on organise. Combien y a-t-il de partenaires ? Il y a une 60aine de partenaires, donc c'est un événement à taille humaine. De toute façon, on ne peut pas en rencontrer réellement plus lors d'un événement qui dure 2 jours. Et c'est des partenaires qu'on va aussi chercher. Donc il y a un renouvellement. Et côté, donc il y a 2 types de partenaires. Il y a des partenaires conseils qui nous accompagnent dans la rédaction de ces yearbooks, qui sont tous très bons. Et il y a des partenaires éditeurs qui couvrent l'ensemble du spectre des écosystèmes qu'on analyse avec donc les conseils.
Benjamin, merci beaucoup. Merci encore Benjamin. De l'invitation, de nous avoir permis d'être là, de rencontrer toutes ces personnes. L'aspect networking, justement, t'en as parlé, c'est très important. Et nous, on est également dans le partage, donc on est ravis d'être comme des petites souris, de rencontrer les personnes, de discuter et puis de les avoir au micro. Merci encore et
merci
bonne
Benjamin.
Fin d'édition.
Merci à vous.
À bientôt. Et comme à notre habitude, nous sommes allés à la rencontre des intervenants, ceux qui ont animé des ateliers et aussi des exposants. Et nous vous restituons nos interviews avec eux. Et nous accueillons au micro Ricardo Catalano, qui est Chief Strategy Officer chez Velvet Consulting. Bonjour Ricardo.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va Ricardo ?
Mais ça va très très bien à Bruxelles.
Ça va, alors voilà, tu rentres dans le vif du sujet à Bruxelles. Donc qu'est-ce que tu viens faire à Bruxelles ?
Eh bien nous partageons aujourd'hui le Benchmark Marketplace 2022.
Justement, ce matin, tu as animé une conférence, c'est pour ça qu'on est ravis d'échanger. Le titre de la conférence était Marketplace, panorama des solutions du marché. Avant de nous parler de la conférence, tu peux nous dire 2 mots déjà sur ce que tu fais et Velvet Consulting, et puis ensuite nous parler un peu plus de la conf.
Avec plaisir. Alors, chez Velvet, nous accompagnons les entreprises dans la transformation customer-centrique. Donc, c'est tout ce qui est parcours client, et ensuite concrètement avec de la tech et de la data. Comment est-ce qu'on le rend concret chez les clients ?
Et donc ce matin, vous avez pris un angle hyper concret, c'était le panorama des solutions Marketplace. Marketplace, c'est un sujet on parle tous les jours depuis plusieurs années dans le monde de l'e-commerce. Alors c'était quoi la conférence et qu'est-ce que vous avez présenté ?
Et bien, en fait, nous avons présenté une analyse des différentes solutions Marketplace internationales et avec du coup leurs points différenciants, qu'est-ce qu'elles apportent dans le marché et pour que du coup les annonceurs puissent l'approprier.
Tu vois que le sujet des marketplaces, c'est un sujet qui est important. Tout le monde autour de toi, enfin les annonceurs, demandent B2C, B2B.
Alors j'ai un chiffre à vous donner. Chiffre, c'est que la valorisation des marketplaces au niveau global aujourd'hui, c'est 7 trilliards de dollars. Donc ça comprend Amazon, Airbnb et les autres, mais c'est 7 trilliards de dollars. Donc oui, c'est important.
C'est un chiffre du Gartner ou du Forrester ?
Absolument. Ce n'est pas un chiffre interne, absolument.
Très bien. Ricardo, si on revient un petit peu à ce que vous faites chez Velvet, qui est la customer-centrique, quel rapport avec les marketplaces et comment est-ce qu'on peut définir la customer-centricity dans les marketplaces ?
Bien sûr, c'est une très bonne question et c'est absolument central, puisqu'aujourd'hui, l'attente des gens, de vous, de moi, de nous en tant qu'individus et consommateurs, c'est d'abord une expérience omnicanale. Et aujourd'hui, les marketplaces délivrent cette expérience et permettent de la délivrer. Et puisqu'en fait, ça permet aux marques et aux consommateurs de se retrouver dans un lieu, un marché, et un marché commun et qui est du coup drivé par l'offre tout autant que par la demande.
Ce matin, tu as animé une conférence spécifiquement sur la marketplace, donc ça devait être hyper engageant. Enfin, je n'ai pas pu y assister malheureusement, mais je veux bien croire que c'était très intéressant. Comment est-ce que... moi, j'aimerais bien comprendre un peu la méthodologie, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez ciblé, combien de marketplaces vous avez regardé, quelle est la méthodologie, combien de temps ça vous a pris et surtout, qui est le grand vainqueur? C'est quoi la meilleure marketplace du marché? On veut savoir,
on veut mais
avec un peu de suspense.
Le grand vainqueur 2022. Alors déjà, et c'est un travail qui a été fait par notre expert marketplace qui est Lucas Barbier et qui a travaillé pour l'une des grandes marketplaces du marché. Et donc je tiens à le citer, c'est lui qui a fait un travail exceptionnel, c'est son travail. Alors le grand vainqueur, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de grand vainqueur. Et c'est qu'en fait il y a peut-être autant de définitions de marketplace qu'il y a de marketplace dans le marché.
Il y a donc dans le Digital Benchmark, dans le livret qu'on nous a remis, il y avait des informations sur la conférence et il y a notamment, pour rebondir sur ce que tu dis, une marketplace qui est spécialisée dans la seconde main, par exemple.
Absolument.
Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. Il y en a qui vient de B2B, B2C et même dans un secteur particulier.
Ça
ajoute de la complexité dans le choix de ce qu'on veut.
En fait, c'est un puzzle et aujourd'hui, avant de se lancer dans une marketplace, il faut bien sûr réfléchir à ses besoins. Et on a parlé en off tout à l'heure, à savoir au use case. Il faut définir ses use case, ses cas d'usage, pourquoi faire, et à partir de là, du coup, adresser et aller trouver la bonne technologie.
Est-ce que les marketplaces aujourd'hui sont réservés à des très gros annonceurs ou des très gros retailers?
Pas forcément. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, avec justement ces technologies disponibles, et il y a des annonceurs qui vont faire de choix. Et de choix, par exemple, de quitter une activité e-commerce verticale limitée à l'offre de la marque pour justement aller augmenter une offre, et soit dans la catégorie, soit grosse catégorie.
Ricardo, alors on a compris qu'il n'y avait pas de name dropping, mais moi j'ai envie de savoir qui est-ce qui est très très bon ou qui est-ce qui est très très prometteur en termes de marketplace.
C'est une question authentiquement difficile à répondre.
Et déjà, est-ce qu'il y en a qui se démarquent?
Alors, il y en a qui se démarquent par la typologie de l'offre. Il y a des marketplaces justement qui vont travailler sur la seconde main, second par exemple, ou un B2B ou un B2C. Mais je pense que le plus important que la démarcation, c'est de bien comprendre la différence entre chacune d'entre elles et comment est-ce que les marques peuvent du coup, et pourquoi pas, les faire interagir ensemble. Il y a des cas d'usage là-dessus.
C'est vrai?
Absolument.
Alors, tu ne veux pas nous lâcher de nom et on le comprend, mais en tout cas, ça va dans quelle direction? Je vais dans la continuité de la question de Laetitia, ton collègue, ton collaborateur qui a analysé tout le marché, toutes ces solutions. Il voit qu'on tend vers quelque chose, le marché il va dans une direction, les marketplaces il y a 3 ans et aujourd'hui et dans 3 ans sont différentes et évoluent dans une direction ou pas?
Alors, l'évolution, c'est bien sûr la spécialisation. Et donc, du coup, il y a des nouvelles marketplaces qui se sont développées et autour du B2B, autour de la seconde main. Et ça, c'est nouveau. Et c'est ça qui émerge aujourd'hui. Et en fait, ça suit de manière très profonde la tendance du marché et vers ce type de réponse.
Il y a quelques années, alors moi, j'ai plutôt le background de plateforme e-commerce. On nous demandait même, est-ce que c'est mieux de construire sa propre solution e-commerce ou utiliser une solution? Tu vois, en off, on en rigolait un petit peu, mais tu vois que c'est sur le marché, il y a encore ce questionnement de si on va construire, on va étendre l'e-commerce, on va utiliser des frameworks pour essayer de construire sa marketplace ou non?
Voilà. Il y a des cas d'usage qui sont très concrets. On a parlé avec l'un des participants du workshop ce matin qui a construit sa propre marketplace internationale parce qu'en fait, il n'avait pas trouvé de solution qui correspondait notamment, par exemple, à des réglementations et fiscales différentes selon les pays. Donc, ils ont fait le choix de construire le marketplace et ils m'ont dit en off que peut-être au bout de 2-3 ans d'activité, il se reposerait la question de reprendre une technologie marché.
Si je comprends bien, Ricardo, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des plateformes, enfin des outils marketplace qui ne sont pas complets. Si par exemple, ce client-là, enfin cette marque-là a fait le choix de faire du custom, c'est qu'il y a encore des petits trous dans la raquette.
C'était il y a 2 ans, donc ça a pu évoluer peut-être depuis. Mais en effet, je pense que c'est très très difficile d'avoir une réponse et holistique à tous les besoins d'un annonceur. Et après, le choix qui est à faire, c'est est-ce qu'il est rentable de construire sa propre marketplace parce qu'on peut adresser 100% des use cases ou est-ce qu'avec 80%, on ne le fait pas peut-être plus rapidement, de manière plus robuste et moins cher.
C'est pour ça qu'il y a des marketplaces de niche ou verticalisées parce que tu ne peux pas tout faire. Et donc, parce qu'en fait, avec toutes les marketplaces, tu pourrais faire de la seconde main, etc. Mais c'est juste, ça demanderait du custom ou des apps externes, etc. Quoi. Et c'est plus rapide de mettre en
fait,
place.
C'est toute l'étude de cadrage et que nous faisons chez Velvet.
Merci Ricardo. Un dernier mot peut-être? Qu'est-ce que tu
voudrais
rajouter?
Merci beaucoup.
Si on veut en savoir plus, si on est passionné par les marketplaces, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut
n'hésitez
faire?
N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Ricardo Catalano, LinkedIn Velvet, ou notre site internet, avec plaisir, on est là pour ça.
Et cette étude, d'ailleurs, elle est disponible sur votre site?
Elle est publique, absolument.
Ah, donc super. On peut la télécharger.
J'irai la télécharger alors.
Avec plaisir.
Okay.
On en parlera.
Merci mille fois Ricardo.
Merci Ricardo.
Merci à vous.
place à Sonia Daesh, qui est directrice CRM et Data Omnicanal chez But. Bienvenue Sonia.
Bonjour Sonia.
Bonjour, merci.
Sonia, tu as animé une conférence ce matin en ouverture de cet événement, le BG Digital Benchmark. De quoi est-ce que tu as parlé ?
Alors ce matin, en fait, on a parlé de la transformation digitale en fait, d'une entreprise à travers le sujet CDP. Donc nous, on s'est lancé, c'est un des enjeux de But en fait, de travailler sur toute la partie transformation digitale dont je participe, donc c'est dans mon périmètre. Et qui dit transformation digitale, ça suppose aussi la transformation finalement de l'entreprise à travers différents sujets et principalement en fait le sujet CDP. Où on a pour objectif en fait de travailler sur une Customer Data Platform, donc CDP pour Customer Data Platform, dans le but en fait de centraliser toutes les informations clients et pouvoir faire parler finalement la donnée de manière plus intelligente et l'exploiter au mieux à travers la centralisation de ces informations.
Il a commencé quand le projet ?
Le projet il a commencé il y a un an et demi.
C'est court, 18 mois pour trouver pour définir
trouver
le besoin,
le
trouver le partenaire, ouais. L'implémenter.
Et avoir les premiers résultats.
Et oui, puisqu'on lance le MVP là dans une dizaine de jours.
Super. Okay.
Vous êtes parti avec quelle solution, quel prestat ?
On travaille avec Oracle.
D'accord,
donc,
ok.
Qui s'appelle Unity.
Ouais. Et donc là, ce matin, tu présentais justement les premiers use cases ?
Alors, on a présenté en fait plus comment on en est arrivé au projet CDP, les apports de l'entreprise en fait sur le projet CDP et principalement aussi tout ce que ça implique d'un point de vue acculturation parce que quand on se lance dans un projet CDP, ça suppose aussi d'acculturer finalement l'ensemble des équipes à la data et puis finalement la centralisation de ces informations clients dans le but en fait de pouvoir faire adhérer tout le monde finalement au projet et montrer finalement que ça apporte des insights à tous.
Donc ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quand même une acculturation à faire, donc une organisation à revoir. Toi, quand tu es arrivé, quand tu as lancé ce projet CDP, il a fallu que tu revoies tout de A à Z parce que c'était pas dans la culture
Alors,
de l'entreprise.
Alors revoir, oui, un petit peu dans la mesure, enfin un petit peu beaucoup, on va dire, dans la mesure où finalement, en fait, on a travaillé. J'ai commencé par lancer un audit. On a été accompagné par une boîte de consulting pour lancer cet audit parce que l'idée c'était de se dire, ok, aujourd'hui, comment ça fonctionne en termes de data, où on la récupère, comment on l'exploite, où c'est déversé. Et en fait, à partir de là, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué, que finalement, on n'exploitait pas toutes les données de l'entreprise, que tout n'était pas centralisé dans un même outil, et finalement, que c'était un peu, on va dire,
une passoire numérique.
Un peu boxon. L'idée, c'était de se dire, maintenant, il faut que ce soit plus propre, qu'on ait une base de données qui soit unifiée pour qu'on puisse exploiter cette donnée au mieux.
C'était quoi le plus gros challenge, ou un ou deux gros challenges que tu as eu là ces 18 derniers mois ?
Le plus gros challenge, c'était justement en fait, d'accompagner cette transformation et de se dire, on va changer ça, la façon de faire. Après, le deuxième challenge, moi, ça va être principalement la digitalisation finalement de nos supports de communication, puisque But, ça existe depuis 50 ans, et puis le papier, c'est dans la culture de But. Donc de se dire, aujourd'hui, on va investir moins dans le papier et plus dans le digital. Et le troisième sujet, ça va être finalement l'adhésion des équipes et faire en sorte en fait, que les équipes IT travaillent avec nous pour pouvoir répondre à nos besoins métiers.
Et si on passe côté client, l'expérience client, comment est-ce que ça se traduit ? Comment vous récupérez la donnée ? Comment le client est capté ? Est-ce qu'il y a, j'imagine, beaucoup de personnalisation, voire de l'hyper-personnalisation que vous avez mis en place ?
Alors oui, déjà en fait, nous on est quand même des magasins, on a des magasins, c'est 300 magasins, donc aujourd'hui
c'est
la
vrai.
Principale source...
Je l'oublie que c'est omnicanal.
La principale source de collecte d'informations, ça va être les magasins. Donc il faut sensibiliser justement les équipes magasins à bien récupérer finalement les informations clients et qu'elles soient de qualité hein, parce que récupérer des informations c'est simple mais qu'elles soient qualitatives ça l'est pas forcément donc de les sensibiliser là-dessus et donc de donner du sens et de leur montrer finalement qu'est-ce qu'on en fait derrière si on leur montre qu'est-ce qu'on leur fait derrière et quel business ça peut générer en fait pour les magasins c'est tout de suite plus facile pour eux de récupérer finalement ces informations clients et après je dirais c'est toute la partie utilisation finalement de cette information client pour pouvoir aller plus loin dans la personnalisation des parcours et dans la personnalisation finalement de la communication que l'on fait pour lui pour essayer finalement d'anticiper son prochain achat.
Tu peux me donner un exemple de choses que vous avez faites et qui étaient possibles de personnalisation, par exemple, grâce au CDP et pas aux outils classiques, où il y a déjà un CRM, il y a déjà plein d'informations sur le client ?
Oui, il y a plein d'outils. Aujourd'hui, la CDP, ça nous a permis d'unifier, en fait, d'avoir cette vision client 360, mais aussi de mettre à la disposition, par exemple, je prends l'exemple du service client, où finalement, aujourd'hui, le service client, quand il veut répondre à une problématique client, il est obligé de se connecter en fait, aux différents outils. Donc, à l'outil logistique pour suivre finalement où en est la commande, l'outil marketing pour voir s'il a bien reçu cet email, l'outil de génération de bons en fait pour voir si finalement le client a bien reçu son bon et de quelle valeur il est ou s'il est brûlé et demain avec la CDP en fait tout ça sera unifié au sein même de cet outil là et donc finalement ça va fluidifier le parcours et la gestion de la réclamation client.
Tu espères que ça réduise le temps de travail de combien la CDP?
J'espère de 30%.
C'est énorme.
De 30% oui et puis après il y a toute la partie customer care parce qu'en fait ces informations on souhaiterait aussi également les mettre à disposition des clients en eux-mêmes sur leur espace client sur le site internet.
Et on a parlé donc d'Omnicanal, avec les magasins. Tu as un exemple avec les magasins, ça va être aussi du reporting, des dashboards unifiés justement sur la
cliente. Alors ça va être des dashboards unifiés, mais ça va être se dire aujourd'hui en fait on utilise les insights digitales pour essayer, enfin les insights digitaux pour essayer finalement de communiquer au bon moment avec le client. Demain c'est de se dire bah on va utiliser ces insights là pour donner des argumentaires en fait à la force de vente, c'est de se dire bah le client par exemple qui a mis son canapé en fait sur dans son panier mais qui a pas été jusqu'au bout, logiquement on l'aurait sollicité par email. Mais on peut se dire finalement ça c'est des insights qu'on va mettre à la disposition finalement des forces de vente en magasin à travers leur système de caisse et de se dire bah le client il est peut-être venu acheter finalement un matelas mais je sais qu'il a été voir sur le site internet qu'il avait un canapé, il a pas été jusqu'au bout donc ça va servir d'argumentaire pour la force de vente en magasin.
Donc tu es en train de nous dire que le client va anticiper peut-être le futur achat le vendeur quand le client sera dans son magasin en disant mais en fait peut-être que vous seriez intéressé par
oui,
un canapé.
Oui, voilà, c'est
comme
ça.
Les recommandations sur un site
exactement
là,
en fait
tu fais en live
exactement
là,
mais sur la base de ces insights à lui sur le site internet
en plus
et donc finalement ouais. La boucle est bouclée on va dire.
Et donc le client ultra surpris mais oui bien sûr j'achète.
Exactement.
Le projet CDP il est porté par qui hein, chez vous?
C'est moi qui le porte et il est sponsorisé par notre directeur
donc,
général
métier,
ouais. Par le directeur général marketing et data.
Et donc maintenant le CDP ça va être je vais pas dire c'est le run parce que c'est continuellement faut alimenter avec des meilleurs plus d'informations, nettoyer les informations et continuer. C'est quoi la suite soit avec le projet CDP ou les autres projets?
Alors la next step effectivement une fois que l'outil marketing automation enfin l'outil CDP pardon sera mis en place, donc là on est en train d'avancer sur un outil marketing automation où on veut changer d'outil.
Un outil de DAM aussi très certainement.
Ouais, l'outil de DAM effectivement on en parle. On parle aussi de PIM et on parle aussi derrière de se dire bah, une fois qu'on a toute la donnée qui est centralisée bah, bien évidemment il va falloir faire parler cette donnée et donc il y a tous les sujets de la connaissance client autour, donc la construction d'une BI autour du client.
Sonia c'était passionnant, si on veut en savoir plus comment est-ce qu'on peut faire ou comment on fait pour te contacter?
Bah, vous avez juste à m'ajouter sur LinkedIn.
On mettra le lien de ton profil directement en commentaire de l'émission ou en note de l'émission. Sonia merci mille fois et on te souhaite un bon salon.
Merci Sonia,
beaucoup.
À bientôt. Et c'est au tour de Benaïssa en Barèche, Chief Digital Officer, de prendre le micro du podcast LCDE. Bonjour Benaïssa.
Bonjour Laetitia, bonjour Adrien.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va plutôt pas mal.
Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici?
Alors qu'est-ce que je fais ici? Je viens chercher des bonnes idées, rencontrer des collègues, rencontrer des prestats et essayer de trouver des moyens de servir la stratégie que j'ai posée pour le tour opérateur pour lequel je travaille, qui s'appelle Thalasso Numéro 1 Voyage, pour lequel je m'occupe du marketing et du digital depuis quelques mois. Tour opérateur qui est plutôt connu dans le B2B, qui est plutôt un véritable constructeur de voyages à l'origine, en B2B, qui sont revendus plutôt par des entreprises comme Vacances Carrefour, comme
Claire,
comme VP également, et qui au final décide d'avoir une stratégie de développement également du B2C.
Question un peu bête, mais qui a le mérite d'être posée, ça va mieux le voyage en ce moment ou pas?
Il y a le Travel Revenge, je pense qu'on a tous été enfermés, trop longtemps, on a tous envie de partir, donc c'est plutôt bon signe. En opposition, pour être tout à fait honnête, il y a également tous les soucis et tous les sujets de conversation autour des émissions de carbone. Donc est-ce que ça va bien et économiquement la situation est positive? Est-ce que ça va bien sur le contexte? Pour moi, le contexte est positif parce que c'est une industrie qui doit réfléchir à se réformer par rapport à une problématique, quel est son environnement ou autre. C'est plutôt une entreprise un secteur qui va devenir dynamique puisqu'il va falloir réfléchir à de nouvelles solutions. Donc, à ta question, je réponds que tout va bien.
Et c'est aussi pour ça que tu es ici aujourd'hui à cet événement BG pour regarder un petit peu les tendances, ce qui se passe. Demain, tu animes un atelier, une conférence qui s'appelle « Comment renforcer sa stratégie B2C grâce à une expérience utilisateur personnalisée ». Est-ce que tu peux nous en parler? Ça va être quoi le sujet?
L'intitulé est un peu large, mais tout ça tourne autour un petit peu de la data, du consentement et de tout ce à quoi on se confronte tous les uns les autres. Moi, j'ai la chance et aussi, c'est une opportunité, je le vois comme une opportunité, mais aussi un chantier immense de récupérer une marque qui est plutôt B2B, donc qui n'a pas forcément de traitement direct avec le client, mais qui passe par des revendeurs. Et l'idée de développer la partie B2C, elle nécessite également de développer des éléments de relation client, des éléments du X et des éléments de data. Et pour cela, tout ce qui est consentement, et c'est des choses qui sont quand même vraiment travaillées par les véritables e-commerçants. Et là, il fallait tout poser en place. Donc Didomine nous a accompagnés pour ça. Et c'est un sujet à la fois de data, à la fois de réglementation, on va se le dire, mais aussi de personnalisation et de ce qui nous attend plus tard.
Vous en faisiez pas en B2B, de la perso ou l'utilisation de la data? C'est vraiment le B2C qui a drivé les sujets?
Je te parle vraiment d'un site internet B2B sur lequel Laetitia, agent de voyage, va aller réserver un voyage directement auprès d'un fournisseur.
Ouais.
Et elle va le réserver son client Adrien. Donc quelque part, ce sont des outils de B2B sur lesquels qui nécessitent d'avoir une UX correcte, on est d'accord, mais qui ne nécessitent pas d'avoir les mêmes champs, les mêmes règles.
Ouais, c'est pas de l'acquisition, de la conversion,
c'est de la monétisation.
Absolument. Donc du coup, c'était assez normal, étant donné que le cœur de l'entreprise, c'est quand même d'être un tour opérateur, hein, je rappelle la définition, mais c'est de construire véritablement les voyages, affréter les vols sur des destinations aussi souvent, beaucoup sur les Canaries, sur la Grèce, etc. Cette tâche-là, quand on veut la passer en B2C, y a quelques petites règles à respecter, y a quelques petits dispositifs à mettre en place, et là-dessus, je dois dire qu'en quelques semaines... Si j'ai accepté d'intervenir, en tout cas, c'est parce que Didomi nous a aidé en quelques semaines à nous remettre sur des standards qu'on n'avait pas.
Mais du coup, on a besoin de quels outils pour passer de B2B en B2C?
On a besoin d'une bonne gestion des contacts clients, puisque si jamais c'est un agent de voyage qui réserve, tu ne risques pas d'avoir l'email de la personne. La communication se fait avec l'agent de voyage qui va communiquer avec son client, ça reste son client. Donc ne serait-ce qu'en termes de données, de gestion de la donnée, il y a déjà un élément. Un professionnel du voyage qui parcourt un site internet pour choisir une destination et un novice ou un client B2C qui le parcourt, ça ne nécessite pas les mêmes menus. Sur un agent de voyage, sur une destination comme les Canaries, tu peux le démultiplier en Lanzarote, en toutes les destinations qui vont derrière, et tu ne vas pas le faire de la même manière à un client qui ne connaît pas forcément les Canaries.
Donc ton travail, c'est toujours de...
Tu vas l'attirer vers les Canaries avec du contenu, tu vas l'attirer avec autre chose.
Ton travail est toujours de penser en double à la fois B2B et B2C.
Je crois qu'aujourd'hui, mon travail et le travail des équipes, c'est de s'orienter vers le B2C. Parce que tu as l'assaut numéro 1 et sera l'année prochaine. Et au voyage, donc, ce sera l'année prochaine une entreprise qui aura 20 ans et qui est encore le seul tour opérateur français, pas détenu par une quelconque entreprise hors de la France, et qui a prouvé sa capacité à résister à différentes crises, dont la dernière qu'on vient de traverser, ce qui est assez remarquable. Donc en B2B, j'avoue que j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur des produits de grande qualité, sur des gens qui sont des vrais professionnels de la production touristique. Et aujourd'hui, on est quand même pas mal dans un monde de travel tech, où finalement les sites sont connectés à des moteurs qui vont chercher des éléments de prix, qui les assemblent les uns aux autres. J'ai envie de dire que là, on a affaire plutôt du fait main.
Et du coup, le B2C, c'est quoi là, les gros challenges? Tu en as cité quelques-uns, mais là tu vois arriver.
J'en ai cité pas mal. Une UX qui soit à la hauteur, des visions mobiles qui soient à la hauteur, une acquisition qui soit la mieux orientée possible, en tout cas un mix d'acquisition.
Un paiement fluide? Avec parfois
sur le paiement
du...
fluide, des paiements plusieurs fois qu'on est en train d'implémenter. Il y a tellement de choses à faire. Le gros intérêt de notre conversation, là, c'est que vous allez souvent avoir affaire quand même à des entreprises qui, sur le digital, ont déjà beaucoup avancé. Là, c'est une entreprise qui est très mature sur sa destination, sur son cœur de métier, mais qui finalement, c'est un petit back to basics, quoi. Puis même pour moi, c'est quand même sympa de revenir sur des basiques, et on apprend qu'on a un monde qui évolue vite, on a de la chance. Voilà pourquoi aussi je suis là, parce qu'on a un monde qui évolue vite.
Benaïssa, comment on fait pour te contacter?
Pour me contacter, on va sur LinkedIn. D'abord, quand on a besoin de partir en vacances, on va sur auvoyage.com.
voilà.
On commence par là.
T'as un code promo, quelque chose à nous donner?
Voilà, on va faire ça, on va vous donner un code promo.
Un truc LCD.
On va vous inviter, on va d'abord vous inviter, parce que mine de rien, on a beaucoup de choses à mettre en place, mais il y en a quand même pas mal qui sont en place. Donc on va vous inviter à vous abonner à notre newsletter, parce qu'on fait chaque mois une bonne flash, sur laquelle on va pouvoir vous proposer des réductions intéressantes. Et on est déjà sur le marché, plutôt dans les très très bons rapports qualité-prix. Pour me joindre sur LinkedIn, c'est assez simple. Je préfère autant que vous voyagez avec nous plutôt que de me joindre moi.
Bah écoute, on va mettre ton
profil. Si vous voulez savoir ce qu'on fait, allez le tester, quoi. Voilà.
C'est très très bien. Merci encore. Bon courage demain pour ta conférence et au plaisir de suivre ce que tu fais.
Merci Laetitia, merci Adria.
Et nous accueillons maintenant Yamine Mebarki de chez Vogs.
Bonjour.
Bonjour Yamine.
Bienvenue.
Merci à vous.
Alors Yamine, on avait déjà interviewé Vogs il y a quelques mois. C'était Alan qui avait pris le micro, qui nous avait expliqué ce que c'était Vogs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Vogs aujourd'hui?
Au niveau du fonctionnement, on n'a pas énormément changé. Donc on est toujours une plateforme qui va mettre en relation les marques avec des créateurs de contenu. Et aujourd'hui, donc, nous sommes plus axés sur des marques beaucoup plus diverses, mais aussi des prestations de services. Donc on essaie de s'ouvrir un maximum sur tout type de marque afin de pouvoir avoir un éventail assez, assez divers.
Et qu'est-ce que tu es venu faire ici au Digital Benchmark? Faire ton petit marché?
Aujourd'hui, ouais, c'est un peu ça, faire rayonner Vogs en Belgique, mais également trouver de nouvelles marques avec qui collaborer, mais aussi trouver d'autres entreprises qui seraient susceptibles d'être dans le même secteur que nous, dans lesquelles on pourrait collaborer. On a notamment rencontré Templar, qui est une entreprise qui fait de l'AR et qui pourrait être très intéressant pour nous. Donc... on fait pas mal de rencontres.
Et justement, là, dans tes rencontres, est-ce que tu vois qu'il y a des tendances qui se dessinent? Il y a des problématiques particulières là, au vu du contexte?
On n'a pas énormément rencontré, enfin on n'a pas eu le temps encore de parler avec beaucoup, beaucoup de monde, mais énormément de personnes aujourd'hui sont venues dans le but de trouver, de développer leur présence sur le web, notamment de la création de contenu. Et c'est là où on a été assez présent, car... peu de personnes étaient encore connaissaient l'UGC, et c'est là où on a pu du coup essayer d'éduquer et de développer notre marché à travers l'UGC, et c'était assez bien reçu de la part des entreprises, et donc on est pour l'instant, c'est un bon départ.
Ouais. Et puis la problématique de du social, de la communauté, de l'UGC, c'est quelque chose qui a toujours été important. Et peut-être qu'en cette période où on essaie de se recentrer vers des choses, vers des leviers qui fonctionnent, ça peut peut-être être porteur pour vous, non ?
Bien sûr, étant donné qu'aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu ces derniers mois, qu'on tire à balles réelles sur les influenceurs. Donc nous, c'est du pain béni pour nous, étant donné qu'on est vraiment à contre-pied de cette tendance-là. Et aujourd'hui, on a récemment fait une étude qui a très bien marché, où il y a des gros médias qui ont pu récupérer notre étude, notamment le blog du modérateur, donc sur la tendance de l'influence auprès de la génération Z et sur leur comportement face à l'achat. Et nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, l'influence s'est convertie beaucoup moins qu'à l'époque. Et aujourd'hui, donc, nous, on est là pour avoir un levier, une création de contenu qui est beaucoup plus authentique pour à la fois pour les marques, mais également pour le consommateur. Aujourd'hui, un utilisateur lambda qui va donner son expérience va avoir une influence beaucoup plus importante et un taux de conversion beaucoup plus important qu'un influenceur qui va faire des placements de produits à la chaîne. Vous voyez ?
Ouais. Et c'est parce qu'en fait, ça s'explique aussi par le fait que les gens, on a commencé à s'habituer, à voir les codes, être un peu plus mature. Et donc après, on revient, c'est des cycles, c'est humain. On cherche l'authenticité, le vrai.
Voilà, c'est tout. Comme vous l'avez dit, c'est un cycle.
Est-ce que tu as envie de dire merci Booba ou pas ?
Bah oui, merci Booba. Merci Booba. Donc, mais après, c'est quelque chose.
Je crois que ça dure depuis un moment. C'est pas que depuis le scandale. Parce que déjà, on voyait les micro-influenceurs.
Ouais. Bien sûr. Aujourd'hui, les micro-influenceurs vont donc convertissent beaucoup plus qu'un méga-influenceur. Mais après, c'est, bien entendu, hein, c'est pas une généralité. Il y a encore des méga-influenceurs qui arrivent à convertir. Et qui, par exemple, je pense à Léna Situation. qui, bah, du coup, on l'a vu récemment avec cet été avec l'hôtel Marfouf qui a fait un
carton.
Mais c'était carton plein. Je me rappelle, mon boss, il passait tous les jours devant, il savait pas ce que c'était. Et la veille de la fermeture,
il fait
mais attends, j'ai retenu l'adresse. Et il me dit, mais c'est quoi l'hôtel Marfouf ? Je me dis, mais attendez, pas au courant ? Et il était un peu choqué de voir tout ça. Il avait une queue qui était immense. Donc aujourd'hui, l'influence n'est pas morte, bien entendu. Elle va jamais mourir.
Mais elle se transforme.
Mais elle va se transformer. C'est exactement ça.
Et puis ça demande aux influenceurs d'être un peu plus intelligents ou malins. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont les codes, qui comprennent qu'il faut être un peu plus authentique, transparent, ou il faut traiter différemment son audience, sa communauté.
Bien sûr, tout est une question d'éducation aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Les réseaux sociaux, on l'a vu grâce à TikTok, les tendances, elles changent mais tellement vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit être à fond sur l'actualité et faire des veilles quasi quotidiennes.
Et vous, chez Vox, vous regardez tout ce qui se passe, vous regardez le plus possible à ce qui se passe, les tendances, essayez de détecter où est-ce que ça va pour mieux conseiller, accompagner les marques avec qui vous bossez. C'est ça.
Bah moi, c'est mon travail du coup. Donc, étant donné que je suis le communicant de la boîte, donc c'est moi qui va scruter, analyser tous les réseaux sociaux tous les jours, Instagram, TikTok énormément. Donc, c'est un levier qu'on essaie de développer au maximum et qu'on essaie de proposer aux marques qui veulent se lancer sur Vox et aussi sur TikTok. Aujourd'hui, TikTok est devenu la plateforme numéro un pour ce qui est transformation, mais également notoriété à travers des challenges qui sont parfois assez futile entre guillemets, ça demande pas
des... Et aussi sur d'autres marques, des marques de vêtements, autre chose que du retail quoi.
Bah bien sûr, il y a tout.
TikTok est hyper ouvert sur plein de choses.
Bah notamment, il y a pas longtemps, on avait une marque de papier peint qui sont venus sur Vogue.
Je pense aussi aux EHPAD. T'as beaucoup d'EHPAD qui font leur publicité avec leurs pas les émergents, mais du coup les EHPAD c'est pas des patients. En tout cas les gens qui sont dans les EHPAD.
Petit truc là.
C'est trop le bon mot.
Avec des roues là. C'est ce que
mais
je voulais dire.
Voilà, t'as toute une stratégie comme ça. Ils sont conseillés en plus, hein, ces EHPAD, pour aller sur TikTok.
Ouais, bah oui.
Donc on est plus sûr de la stratégie.
Et c'est pas réservé du coup qu'aux très très gros. Ça peut réserver à des plus petits, justement des PME même qui veulent se lancer et qui veulent avoir des bons impacts.
Bien sûr, on a énormément de PME qui sont sur Vogue aujourd'hui et on voit aussi énormément de PME qui arrivent à se lancer sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose de fermé.
Super. Merci Yamine.
Bah, je vous en prie.
À très bientôt.
Comment on fait pour en savoir plus si on est passionné par tout ça?
Où est-ce qu'on vous trouve sur TikTok?
Vous nous trouvez sur TikTok, vox.io, sur Instagram et LinkedIn également.
Voilà. Ok, super. Et bon, on y va de ce pas.
Merci beaucoup.
Et nous accueillons Queen au micro. Hello Queen, comment
Bonjour,
ça va?
Bonjour Queen.
Bonjour les amis.
Comment ça va?
Merci, ça va très bien. Je suis ravie d'être avec vous.
Et bien, nous aussi, on est ravis d'être avec toi parce que tu vas évoquer un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer au micro de ce podcast. C'est la fresque du climat. Alors déjà, qui es-tu et qu'est-ce que c'est que la fresque du climat?
Alors, qui je suis? Je m'appelle Queen. Je vis et je travaille à Paris. Donc, c'est une grande aventure pour moi de venir à Bruxelles et j'en suis ravie. Et j'ai été pendant 13 ans responsable juridique dans des entreprises et des organisations. Et depuis 7 ans, j'ai changé un peu de métier, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et je fais de la RSE, donc ça s'appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, j'accompagne des entreprises, mais aussi des collectivités dans leur stratégie RSE, climat, biodiversité.
Super. Et qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui à l'EBG alors ?
Alors, je viens pour répondre à une invitation de l'EBG qui nous a fait vraiment un beau cadeau de visibilité. Et puis ça montre aussi, je pense, leur engagement sur ce sujet. Donc, ils nous ont réservé une petite place dans ce grand événement qu'ils organisent, qui est le Digital Benchmark. Et donc, on sera présent sur les deux journées. La première journée sur un stand. Et la deuxième journée, on va faire un atelier avec un outil ami.
Alors justement, donc tu es dans le Digital Benchmark, en tout cas journée 1, et il y a également le livret, là, le bouquin, je ne sais pas quoi, c'est tellement massif que j'ai envie d'acheter un livre.
Je crois que c'est un benchmark.
Et demain, tu animes un atelier. Est-ce que tu veux nous en parler ? C'est quoi le format de cet atelier ? Qu'est-ce que tu attends de cet échange ?
Alors, la fresque du climat, c'est un atelier de 3 heures. Alors évidemment, 3 heures sur le Digital Benchmark, c'est compliqué, avec des acteurs, des gros acteurs du secteur du retail. Donc justement avec un outil qui s'appelle la fresque du numérique, parce que vous allez voir, vous allez rentrer dans le vortex, la communauté des fresques. La fresque du climat est un peu la grande sœur. Donc ces deux outils, fresque du climat et fresque du numérique, nous allons organiser un petit atelier, on appelle ça modestement un petit atelier de découverte pour commencer à titiller la curiosité des participants sur les enjeux climat, sur les enjeux du numérique responsable. Il y aura un petit temps de quiz pour montrer aux gens qu'on a tous plein d'informations, mais pas forcément structurées parce qu'on est bombardé d'informations sur ces enjeux dans les climats. Et il y aura un petit temps d'atelier d'intelligence collective. On va donner des petites cartes actions. Et on va demander à nos participants de proposer, de réfléchir à des actions liées aux enjeux climat ou numériques responsables.
La manière dont tu le présentes, je trouve ça très subtil, parce que tu n'es pas là pour expliquer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas un cours, mais c'est les personnes qui discutent entre elles, qui réfléchissent et qui arrivent avec leurs propres solutions. Finalement, c'est très de la méthode agile. C'est on se met ensemble et on trouve des solutions, c'est ça ?
C'est tout à fait ça, Adrien. C'est l'intelligence collective. Voilà. Ensemble, chacun individuellement, on peut agir hein, dans nos vies individuelles, dans nos vies professionnelles. Mais agir ensemble, ça permet d'aller plus vite face à certaines urgences que nos participants vont découvrir demain.
Tu as combien de participants pour l'atelier de demain ?
Alors, eh bien, figure-toi, je viens d'arriver à Bruxelles. Je ne sais pas.
Tu ne sais pas.
On sait qu'il y a plein d'ateliers, mais hyper intéressants. Ils vont fabriquer du chocolat, de la bière. Comment faire concurrence avec un sujet un petit peu sérieux, complexe ? Comment faire concurrence à des ateliers chocolat et bière ? Ça va être notre challenge.
Comment se démarquer ?
Comment se démarquer ? Alors, tout ce que l'on sait, c'est que les participants se sont inscrits. Au moment où ils se sont inscrits au Digital Benchmark, ils ont choisi leurs ateliers. Donc, pour nous, ça va être un peu la surprise.
Et qu'est-ce que tu veux ? Donc, tout à l'heure, quand tu es arrivé, on a un peu échangé en off. Tu nous as demandé un petit peu c'est quoi notre audience. Qu'est-ce que tu as envie de dire, justement, aux directions e-commerce, direction innovation, des enseignes, des marques, petites ou grosses, qui nous écoutent ?
Alors aujourd'hui, les enjeux climat, mais de manière plus globale, les enjeux de la transition écologique et sociale, c'est des enjeux qui concernent tout le monde. Tout acteur a un rôle important à jouer, et en l'occurrence, les acteurs, en tout cas les participants du Digital Benchmark, puisque la numérisation des outils s'accélère, les usages se multiplient. Derrière, il y a aussi le cœur de métier, hein, qui est la vente de produits ou de services. Donc, ça veut dire aussi toucher des gens. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin que tous les secteurs se mobilisent sur le sujet, alors, dans mon cas, du climat. Mais pour se mobiliser, pour agir, il faut comprendre. Et c'est là où la fresque du climat arrive à petits pas pour
sensibiliser,
donner les points de compréhension. Ouais.
Queen, moi, ce qui m'interpelle tout de suite, là, c'est que j'ai l'impression que c'est déjà trop tard, en fait. Moi, je t'aurais bien vu il y a déjà 5-10 ans ici, en fait. Pourquoi seulement aujourd'hui, en 2022, on dit « Oh, ce serait pas mal, tiens ». Alors, je n'incrimine absolument pas l'EBG, mais je peux aussi lancer la pierre aux retailers qui font appel à toi ou toutes ces choses-là. Est-ce que c'est pas trop tard, cette urgence-là
Alors, on va faire carte sur table. Alors déjà, pour te répondre, il y a 5 ans, je n'étais pas encore aussi engagée qu'aujourd'hui.
C'est normal, tu avais une autre vie.
Tu ne m'aurais pas vu, mais en revanche, il y a des marques, certes peut-être plus petites hein, que les grands acteurs qu'on a aujourd'hui, mais peu importe, on n'est pas là pour juger ou pour culpabiliser, c'est le temps de l'action. Alors pour répondre à ta question de manière très sincère, la fenêtre d'urgence est là. L'urgence s'accélère, l'urgence est présente. Je pense que cet été, on pouvait penser que le changement climatique, c'était les pays du Sud. Eh bien non, c'est aussi des pays du Nord, et notamment bah, nous en Europe, hein. L'année dernière, la Belgique a été frappée au cœur, la France aussi, cette année, rebelote. Donc l'urgence climatique est réelle, il est encore temps d'agir, mais la fenêtre d'action se rétrécit. Donc si on ne s'y met pas maintenant, l'effort va être plus douloureux et surtout, qui va pouvoir s'en sortir ? Donc l'idée, c'est que s'engager pour le changement climatique, c'est s'engager pour que tout le monde, l'humanité, les pays favorisés et les pays moins favorisés, on verra une différence entre les deux, puisse collaborer.
Queen, si on veut en savoir plus, que c'est un sujet passionnant et on pourra en discuter pendant des heures, comment est-ce qu'on peut faire?
Alors, si vous êtes à Bruxelles et que vous êtes inscrit au Digital Benchmark, vous pouvez passer nous voir demain. Et même si vous n'êtes pas inscrit,
il faut qu'ils utilisent une voiture à aller dans le passé. Parce que là, au moment de la diffusion, ça sera déjà fini.
Ah, bon.
On va appeler alors, le doc et Marty, on va essayer de trouver une solution.
Bon,
au-delà
alors,
de ça.
Marty McFly, je ne suis pas Queen McFly. Alors, pour me trouver, moi, il y a ma page LinkedIn. Alors, c'est subtil. Il faut taper Toudouane Queen Bui.
On va le mettre en commentaire, comme ça les gens ont juste à cliquer.
Voilà, donc vous pouvez me contacter sur ma page LinkedIn. Moi, je fais du... Donc, comme je vous disais, j'accompagne les organisations. Il y a tout un panel d'outils qui existent aujourd'hui et je remercie tous les gens qui ont créé ces outils qui nous servent aujourd'hui à nous, qui accompagnons les organisations. Et moi, si j'avais une demande à faire, et c'est là où la visibilité du Digital Benchmark... enfin, en tout cas, nous, pour nous, c'était une opportunité à surtout saisir. Tous les acteurs ont leur place dans la lutte contre le changement climatique.
Queen, moi j'ai une dernière question. Normalement là, tu dois être indisponible. Ton agenda doit être booké jusqu'à 2024. Dis-nous ça. Moi j'ai envie que les gens aient contact, mais aussi que tu vas dire, c'est compliqué, je suis très demandée.
Alors, le Digital Benchmark, en tout cas le Digital Benchmark 2022 à l'heure, au moment où nous faisons ce podcast, se situe en plein dans la SEDD, la Semaine Européenne du Développement Durable. Donc c'est vrai que j'avoue que moi, mais également tous mes collègues qui travaillent dans ce métier, on est très demandés. Maintenant il faut aussi savoir séparer le grain de l'ivraie. Il y a des acteurs engagés qui ont peut-être saisi qu'aujourd'hui l'urgence, mais qui veulent y aller. Et puis il y a aussi ceux qui utilisent qui veulent faire du greenwashing et qui pensent que vivre un atelier ou à faire appel à un consultant suffit
à les repères. Tu les repères vite, ceux-là.
Oui, ça y est, on les repère bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'on
en parlera en off. En tout cas, merci beaucoup, Queen.
Merci,
bon
Queen,
courage à toi. Et puis, tu as deux supporters en face de toi et on va aller au maximum à notre niveau.
Merci à vous, les amis. Bon podcast.
Merci. Et j'ai le plaisir d'être avec Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Pascal, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais et qui est Valtech?
Ouais, sans problème Adrien. Donc je suis Pascal Melotti, je suis directeur de la stratégie et du business development. Bon, business development, c'est l'aide souvent au support avant-vente, mais c'est quand même du travail d'évangélisation. Stratégie, c'est plus l'aide à la transformation business de nos clients. Valtech, c'est une agence digitale qui aura 30 ans d'âge. Alors on a eu plein de métiers chez Valtech. Le Valtech de 93 n'est pas le Valtech ne sera pas le Valtech de 2023, il sera très très différent. On est une agence multi-service, full services. On est plus de 5500 collaborateurs dans le monde. On fait beaucoup d'acquisitions, donc on se développe. On a plus de 60 métiers et on veut aider nos clients, des gros clients qui ont des problématiques assez lourdes, à se transformer. Et on utilise évidemment le levier de l'innovation digitale pour transformer le business de nos clients.
Bah, ça fait la bonne transition pour cet événement. Moi, ça fait plus de 15 ans que je connais Valtech, où je vois dans l'écosystème, en tout cas en France. Ce matin, tu as animé une conférence ou un atelier qui s'appelle l'e-commerce en ébullition, nouveaux usages et nouveaux modèles de plateforme. C'est quelque chose qui me parle directement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, tu ne peux pas faire la conférence en 5 minutes, mais est-ce que tu peux me dire un peu c'était quoi la problématique de cette conférence?
Alors, on est parti d'un constat qui était... Bon, il y a eu la pandémie, donc la pandémie a accéléré le e-commerce. Même si aujourd'hui, je ne l'ai pas dit ce matin, d'ailleurs, on voit qu'avec la réouverture des magasins, finalement, le e-commerce perd un peu de part de marché par rapport à un écosystème de distribution d'une marque. C'est normal. Donc, on est parti d'un constat ce matin, c'était de dire, finalement, on vit dans un monde où il y a une dispersion. Il y a une dispersion de tous les actifs. Alors, j'ai cité des exemples en disant chez Amazon, la dispersion du e-commerce, c'est passé par le desktop, ensuite par le mobile, maintenant ça passe par la voix. Il y a une dispersion des communautés avec les plateformes de social media. Et tout d'un coup, on se rend compte aussi que pour plein de raisons, différentes raisons, structurelles, conjoncturelles, il y a aussi une dispersion de l'architecture technologique. On nous parle depuis maintenant 2 ans d'architecture composable. On ne parle plus que de ça, d'ailleurs. Finalement, il y a eu une raison pour lesquelles, il y a des raisons pour lesquelles évidemment on va vers cette forte tendance, c'est-à-dire que quand il y a eu la pandémie et que des réseaux de magasins ont fermé, il a fallu que certains acteurs tout d'un coup se disent « Ah, mon site de e-commerce !» Et il a fallu faire des choix dans l'urgence, en quelques semaines, et les solutions d'architecture composable sont assez adaptées à ces pivots business rapides, ou là où parfois en monolithe, il faut sortir un truc en 12 ou 18 mois.
Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je vois aussi un deuxième constat, c'est le monde est de plus en plus complexe, les outils sont de plus en plus complexes, et pour qu'ils puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils soient plus ouverts. Et du coup, ça nous amène vers l'apéisation, ou en tout cas une architecture beaucoup plus ouverte, parce qu'elle est le client, là, tu dirais multicanal, omnicanal, ou comme tu veux, le SI, il est pareil.
Complètement, en fait, il y a tout qui converge vers ça. Mais quand je dis tout, c'est presque même à niveau sociétal. C'est aussi le consommateur. La nature des expériences qu'il vit aujourd'hui impose l'omnicanalité, et l'omnicanalité impose cette flexibilité dans le déploiement des services. Et en plus, on ne sait pas à 2 ou 3 ans finalement quelle sera la feuille de route technologique, quelles sont les plateformes qui vont émerger ou qui seront plus matures. Enfin, aussi, on sait la VR, la réalité augmentée. Mais donc, tout ça impose finalement cette flexibilité et cette logique de l'ego, hein, parce que c'est de ça dont j'ai parlé dans la composition et la décomposition des architectures technologiques.
Ouais, donc ce matin, tu as dû parler de l'évolution. On va pas revenir du on-premise cloud, etc., mais on va dire du monolithe vers du composable. Est-ce que tu penses que le composable, c'est adapté pour tout le monde? Est-ce que ça va continuer à grandir sur le marché, ou ça sera bien pour un segment de clients?
Alors, c'est pas adapté à tout le monde, ça c'est certain, ne serait-ce que par l'organisation des grandes entreprises. Donc là-dessus, ce sera à vitesse très très différente selon les acteurs. Mais par contre, là où ça va s'imposer à tout le monde, c'est que même les acteurs sociétés éditrices, entreprises qui sont monolithiques vont aller vers la redécomposition de leur plateforme, et donc finalement elles vont l'imposer au marché de manière assez naturelle, et évidemment les métiers que sont les annonceurs, les marques, les entreprises iront vers cette logique d'une façon ou d'une autre, en fait. C'est ça le sujet.
C'est quoi le next big thing? Alors, tu as regardé dans ta boule de cristal, puisque si tu as regardé un petit peu ce qui s'est passé, où on en est aujourd'hui, est-ce que tu as pressenti, tu as parlé de réalité virtuelle, ARVR, est-ce que ça serait ça, par exemple, dans...
Ça peut être ça, mais pour moi, c'est un horizon à 5 ou 10 ans. Sérieusement. Ouais. Aujourd'hui, que des entreprises qui sont en difficulté comme Meta veuillent occuper le territoire et se l'accaparer, je comprends. En plus, derrière, ça pose la question de par quelle plateforme, donc par quelle distribution on va rentrer dans ce monde virtuel. Je ne remets pas en cause qu'il va, il y aura l'avènement à un moment.
Il y a plein de freins, de la 3D. Plein de frictions qui font que ça ne pourra pas s'adopter aussi rapidement.
Exactement. Ouais. Il y a plein de frictions aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est un casque de réalité virtuelle. Je dis juste qu'aujourd'hui, un casque de réalité virtuelle, ça ne fait pas rêver un adolescent, ça file des boutons et la nausée, et que j'ai jamais vu un influenceur se faire prendre en selfie avec un casque de réalité virtuelle.
On pourrait en parler pendant 2 heures. Comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus? Est-ce qu'on va sur le site de Valtech pour vous avez un blog ou de l'actualité ou des white papers, ou on te suit sur LinkedIn? Qu'est-ce que tu suggères?
Ah bah, on me suit sur LinkedIn, on suit les articles que je rédige assez souvent, qui sont des tribunes d'opinion. Il y en a une récemment que j'ai sortie sur Netflix, est-il adapté à un modèle publicitaire, par exemple, qui est sorti dans Les Échos. On va sur le site de Valtech, bien évidemment, parce que là, il y a beaucoup d'études de cas. Ouais. Il y a beaucoup de nos plus beaux projets, de nos plus belles réalisations qui traduisent la transformation de grands groupes, de très belles marques dans le monde. Donc, il y a plein de moyens de nous trouver, de me trouver et de suivre les évolutions de ce marché.
Super. On va mettre tout ça en note de l'émission et en commentaire de l'émission. Merci beaucoup. Bonne fin de salon.
Merci
et à très vite. Salut.
Au revoir.
Adrien, en conclusion, toi qui es toujours le bon élève et qui assiste à toutes les pénières et tous les ateliers.
Ouais, mais moi, je suis pas le bon élève parce que je vois que les trucs qui vont pas. Donc, en fait, il faut que je fasse attention à toujours mes feedbacks. Parce qu'en général, je fais toujours des feedbacks.
Partage-nous ton feedback sur ces 2 jours à Bruxelles.
Bon,
Bruxelles,
déjà,
je t'aime.
Beaucoup d'humour de l'EBG dans les noms des salles. Moi, j'ai
Adrien, franchement, on a bien rigolé.
Ouais, c'est beaucoup d'Adrien. C'est ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction.
C'est François Damien, je crois.
François Damien, Jean-Claude Van Damme, Stromae, Hergé, Angèle, etc. Donc, je trouve ça cool.
Damso, tout ça, ils sont où?
Roméo Elvis. Il y avait pas de salle. Il fallait un truc. Mais il fallait un peu éclectique, je trouvais ça rigolo. Bon, au-delà de ça, finalement, le format, il est archi classique. Moi, c'est la première fois que je viens ici et je m'attendais à un truc vraiment extraordinaire. Bah oui, mais il ne faut pas réinventer quelque chose qui marche bien. C'est un format classique, certes, d'atelier, de one-to-one, de stand, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir bien dissocié les matinées et d'avoir organisé également des événements à côté, je trouve ça très propre et très bien organisé. Il y avait quand même pas mal de monde du côté EBG pour l'organisation et j'ai trouvé qu'on était toujours hyper bien encadré et accompagné. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, et toi, tu as plus d'expérience que moi là-dessus parce que t'es partenaire avec l'EBG depuis plusieurs années au travers des boîtes avec lesquelles tu travailles, c'est ce qu'ils publient, ce qu'ils appellent le yearbook ou le benchmark. Finalement, c'est quelque chose de papier,
c'est
assez massif. Alors c'est certes sponsorisé, donc c'est plein d'articles qui sont rédigés par des éditeurs, mais à l'intérieur c'est archi quali. C'est pas 3 slides qui te vendent la sauce d'une solution. C'est vraiment du contenu avec du fond. Pour rigoler avec certains d'entre eux, je discutais, je disais là tu vas concurrencer le Gartner et le Forrester. J'ai trouvé ils étaient vraiment très opérationnels, très concrets, très pragmatiques, avec des cas, des screenshots, des choses que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et alors, la chance, c'est que dans le cas de l'invitation à l'EBG, on a accès à la plateforme en ligne et on peut le télécharger également en ligne. Mais je ne suis pas certain qu'il soit disponible. Non, c'est que pour les adhérents, on est d'accord?
Oui, normalement, c'est pour les adhérents. Ouais, mais bon, tu peux le payer aussi, hein, je crois.
Bon, c'est archi-quali, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Donc, ce yearbook ou ce benchmark, si vous êtes adhérent à l'EBG, téléchargez, foncez dessus. Et si vous n'êtes pas, ça peut être un argument également pour adhérer.
Et d'ailleurs, Adrien, si je puis me permettre, souvent, quand on a des interventions à l'extérieur de LCDE, je regarde dans les anciens benchmarks pour des définitions, parce que je crois que j'en ai plusieurs chez moi qui datent de très longtemps. Et souvent, bah, c'est marrant de voir notamment des définitions sur le social commerce ou toutes ces choses-là qui évoluent. Mais du coup, pour moi, c'est assez une référence et je vais régulièrement piocher dans les benchmarks. Et j'aime bien voir justement les évolutions. Et
ils sont plutôt propres parce que du coup, tu peux également télécharger les années précédentes. Bon, là, je peux retourner jusqu'à 2020 dans l'interface, mais je pense que les autres années sont également... Bon, quel intérêt, mais je ne sais pas, peut-être pour les historiens de l'e-commerce qui nous contactent, je suis sûr qu'ils sont sûrement passionnants dans leur cave. Ensuite, moi, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que tu en penses, tu sais, dans certains de ces événements, tu as toujours The Big One, tu as une personnalité qui va débarquer, je ne sais pas, Monsieur Carrefour, Monsieur Cédiscount, ou Monsieur du gouvernement, ou un truc. Mais côté annonceur plutôt, côté marque.
Oui, c'est vrai, tu as toujours une guest star.
Ouais, où tu vas faire venir des États-Unis,
comme les Américains qui viennent,
une grosse resta, c'est ça. Là, il y en a pas. Mais au final, est-ce que c'est si important?
Bah,
et moi, je trouve ça, voilà, exactement.
Ça manque même pas.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Certes, il y a pas ce grand nom, mais à la limite, on s'en fout parce que c'est bien souvent, on n'apprend pas grand-chose. Ils sont dans les plénières, c'est bien pour de la visibilité externe. Mais j'ai trouvé que les intervenants pour les conférences auxquelles j'ai assisté, ils étaient assez passionnant, très intéressant et j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc certes, il n'y a pas assez grand nombre, mais est-ce qu'on en a besoin? L'approche hyper opérationnelle dans les échanges, j'ai beaucoup aimé. Moi, Adrien, je suis extrêmement sensible à ça, qu'on enlève le bullshit et qu'on parle vraiment de choses concrètes et qu'on se dise les choses. C'est extrêmement dur de faire venir des gens à un événement en cette période de l'année. On est fin septembre, encore plus dur de les faire venir à l'étranger, encore plus dur de les faire découcher, donc faire passer deux jours. On ne dit pas découcher? Non, c'est les enfants qui découchent.
Non, c'est moi.
C'est les mariés fidèle qui découche. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est extrêmement difficile, tu vois. Là, c'est le feu partout, tout le monde, tous les retailers.
En plus, il y a beaucoup d'événements, quoi. Enfin, la semaine prochaine, il y a Biarritz, il y a machin. Moi, j'ai discuté avec des retailers, ils font des choix. Hein,
alors, moi, justement, j'ai des potes retailers qui sont pas venus, justement.
Parce qu'ils
mais,
vont ailleurs.
Voilà, c'est difficile. Mais du coup, pour revenir sur le point positif, il y a quand même un paquet de personnes qui sont déplacées ici. Ouais. Donc, encore une fois, on peut pas enlever un truc, c'est le côté quali et certainement une certaine proximité dans l'EBG quand tu appartiens, quand tu es adhérent à l'EBG. C'est pas juste, tu parlais d'autres événements, c'est pas juste, tu payes et tu vas à l'événement. Tu fais partie vraiment de cette communauté. Ou de ce groupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bah écoute, j'ai pas ces événements, l'intérêt d'être à l'étranger, d'être comme ça entre soi ou entre nous, c'est tout ce qui est à côté, le networking. Malheureusement, j'étais pas invité, donc j'ai pas vu comment c'était, mais je veux bien croire que c'est également, comme on se disait, tous les vrais rendez-vous, ils se passent lors des événements qui sont des événements ad hoc ou dans les dîners autour de verres, etc. Donc je pense que ça aussi, ça doit certainement être posé positivement. Et le dernier truc que je voulais ajouter,
la nourriture,
c'est cool.
T'en as pas parlé.
Non, c'est parce que j'ai pas envie de me fâcher.
Ouais, parce qu'à chaque fois, tu parles de nourriture.
Ouais, je sais.
Un
je
petit
sais.
Laïus sur la nourriture.
Non, parce qu'en plus, rien du tout. Je suis en perte de régime, donc je mange trois fois rien, en fait, de morceaux de salade. Non, et le dernier truc que je voulais ajouter, c'est le RSE ou la RSE. On dit le ou la RSE? Normalement, on dit la RSE.
C'est responsabilité.
Ouais, c'est ça, on dit là.
Ouais.
Mais j'ai toujours dit le RSE, donc je vais continuer à faire ces feux de français. J'ai trouvé ça très cool, couillu, intéressant que l'EBG intègre. Alors, on pourrait toujours dire il faut plus, etc.
Non, mais avec des vrais intervenants quali.
Ouais, qu'on a écouté au micro, donc c'est super, qui anime des sessions, qui sont mis en avant. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool.
Des gens qui ont
cool,
du crédit sur le sujet.
Et donc ça, c'était bien. Donc écoute, des amis m'ont demandé, côté annonceur, est-ce que ça vaut le coup de venir, commencer cette session. Moi, j'ai trouvé, pour une première, encore une fois, pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En cette période de l'année, finalement, en septembre, c'est bien, c'est tôt, c'est pas encore. Plus tard dans l'année, c'est encore plus difficile de faire ça. Je trouvais que l'organisation était au top et surtout la qualité des intervenants et des échanges. Il n'y a pas tout l'écosystème. Ça reste relativement, même
oui,
on parlait des
restreint.
Éditeurs, il n'y a pas tant d'acteurs que ça, mais je trouvais ça cool que ça soit aussi très axé, e-commerce, digital, etc. Donc c'était plutôt cool. Et on arrive à la fin de l'émission, c'est la partie où il faut être aware, et on va l'être avec Laetitia qui nous a préparé un petit panier surprise. Alors je sais pas de quoi elle va faire, je crois que tu vas jouer sur la Belgique, c'est ce que tu m'avais dit.
Bah bien sûr.
Et tu nous prépares un QPUC, un question pour un champion du digital. Donc tout le monde, c'est un battle royal, mais tout le monde contre moi. Vous allez devoir trouver la réponse plus vite que moi. Alors Laetitia, c'est quand tu veux.
Allez, c'est parti. Créé en 1867 par Jules... Non.
Non, c'est pas ça. C'est ça.
Si, c'est ça.
Oh, je l'ai dit au hasard.
Mais toi aussi, t'as pas trop de signes.
Je l'ai dit au hasard.
Non, mais c'est obligé parce que t'as travaillé dessus. Je suis persuadée.
Non, pas du tout. Mais rien du tout.
Itélios, on avait fait tout le groupe Deleuze.
Mais non, mais je me balade dans la rue, je me vois là et je vois partout le Deleuze. Donc je me dis, je sais pas. J'ai dit au hasard, c'est aucun rapport. Mais franchement, j'ai même pas écouté. J'ai dit au hasard. Alors vas-y. Du coup, j'ai court-circuité.
J'ai court-circuité le jeu. Moi, j'ai jamais fait ça.
Je suis désolée. Mais j'ai court-circuité aussi les millions d'auditeurs qui nous écoutent. Alors vas-y. Vas-y, fais-le.
Allez. Créé en 1867 par Jules et Auguste, deux frères, qui ouvrent un premier magasin à Charleroi. Si l'emblème de l'enseigne n'a jamais changé. C'est un lion. Il en est de même pour le slogan « Du côté de la vraie vie ». Son activité principale est l'exploitation de supermarchés, notamment en Amérique du Nord, en Belgique, au Luxembourg, en Grèce, en Roumanie et en Asie du Sud-Est. En 2016, l'activité fusionne avec le groupe néerlandais Ahold. Le réseau du groupe comptait, alors ils ne sont pas très à jour sur leur site, mais en 2009, 2732 magasins et le groupe employait 138 000 employés. En 2009, un nouveau service est lancé et il s'appelait « Course en ligne et retrait en point de vente ». Qui est cet acteur belge de l'e-commerce et de la distribution, Adrien?
Franchement, je ne sais pas si j'avais trouvé, parce que je l'ai vraiment dit au hasard, je ne suis pas familier. Puisque ça, oui, effectivement, j'ai échangé un petit peu avec quelques amis il y a très longtemps et je ne suis pas assez familier de Deleuze. Mais en tout cas, merci beaucoup et désolé d'avoir du coup hacké.
Mais bravo Adrien, c'est un méga bravo, bravo, tu es vraiment aware.
Merci beaucoup encore à l'EBG pour cette invitation. Merci
à tous les intervenants.
Merci à tous les intervenants. Merci à tous les auditeurs. On continue les merci, c'est presque Noël. Et puis on a plein d'annonces. On va pas les faire maintenant parce que c'est un épisode un peu hors série, mais dans le prochain épisode, on a plein d'annonces super intéressantes sur ce qui se passe dans notre actualité. Et tiens, on se dit à la semaine prochaine.
Allez,
au revoir tout le monde.
À la semaine prochaine et nous serons en direct de chez nous.
Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Tout a une raison. Ton interview avec moi, la température de l'eau, les tremblements de terre, la pollution, les gens qui ont fait du mal sur la terre, les gens qui ont fait du bien, c'est des messages pour nous.
J'ai eu un full cycle et maintenant je recommence le cycle. Je suis très content et très lucky to have that cycle again.